Les bonnes nouvelles de la présentation d'avant, c'est qu'on peut maintenant diagnostiquer précisément du vivant de la personne. Et vous apportez une nouvelle bonne nouvelle, docteur Beauvais, c'est qu'on peut prévenir. On ne peut pas guérir de la maladie d'Alzheimer, mais on peut largement la ralentir. Vous allez nous parler de tout cela.
Donc, effectivement, moi aussi, je vais rapidement commencer. En fait, tout simplement par la citation tirée d'un article rédigé par le professeur Dubois, donc, qui nous fait l'extrême honneur d'être ici aujourd'hui. Et donc, dans sa conclusion sur cet article autour de la prévention de la maladie d'Alzheimer, il disait donc, si l'on cherche une maîtrise de la maladie d'Alzheimer, empêcher sa survenue, ou en tout cas essayer d'en retarder au maximum le moment de survenue, sera peut-être le meilleur moyen. En effet, le docteur Charlin vient d'en parler à l'instant, les lésions anatomopathologiques existent facilement 10 à 15 ans avant l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie. C'est comme une sorte de phase de risque ou phase d'incubation pendant laquelle il va être possible, comme on va le voir tout à l'heure, de mettre en place différentes choses pour essayer, peut-être pas d'empêcher la maladie, puisqu'aujourd'hui ce n'est pas possible, mais en tout cas d'essayer de retarder, de ralentir la maladie de façon à ce que l'apparition des signes cliniques, si la maladie doit se développer, soit la plus tardive possible. Donc nous allons voir différents éléments. Tout d'abord, l'importance de la pratique régulière d'une activité physique, d'une alimentation adaptée, équilibrée et variée, et d'un sommeil de bonne qualité. Ces différents éléments vont nous permettre d'avoir non seulement une réduction du risque cardiovasculaire, mais également une réduction du risque de développer la maladie d'Alzheimer. Et également, un élément qui sera important, ce sera tout ce qui va être contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. Je remercie également le docteur de la Doucette qui a commencé à faire un petit intermède autour de la dépression, puisqu'effectivement, on verra quels sont tout à l'heure les liens entre la dépression et la maladie d'Alzheimer. Également, il a évoqué les maladies dont un certain nombre vont avoir des effets délétères sur le fonctionnement cognitif, et donc on en parlera tout à l'heure. La fin de mon exposé parlera de ce qu'on désigne sous le terme de réserve cognitive, et nous verrons donc les différents éléments qui vont permettre une stimulation cognitive par la suite de façon à la faire fructifier cette réserve cognitive. Donc la pratique de l'activité sportive, eh bien en fait les études nous montrent que la pratique régulière d'une activité sportive va nous permettre de réduire de 25% le risque de développer une maladie d'Alzheimer à 15 ans. Généralement, les études, elles s'intéressent surtout à la pratique de la marche pendant 30 minutes, 5 jours sur 7. Cependant, ce qu'il me semble important de se rappeler, c'est que toute activité physique va être bonne et qu'on va observer un effet cumulatif de la multiplication des pratiques sportives. Les différents mécanismes d'action, eh bien, tout d'abord, de façon très logique, le sport permet de limiter les facteurs de risque cardiovasculaire. En effet, le sport va permettre d'abaisser la tension, d'améliorer le métabolisme glycidique et va permettre de ralentir le vieillissement au niveau du cœur et des artères. Également, eh bien, tout simplement, lorsque vous décidez de faire une activité physique, il va falloir mettre en place et va falloir faire fonctionner vos fonctions cognitives. En effet, si vous vous dites, ben, tiens, je vais aller tout à l'heure à mon club de sport, eh bien, tout d'abord, il va falloir penser au trajet que vous allez suivre et être capable, avec vos différentes capacités d'inhibition et de flexibilité, de vous adapter aux différents aléas que vous allez trouver sur votre route. Une fois arrivé là-bas, eh bien, il va falloir stimuler votre mémoire à long terme pour vous rappeler des prénoms, mais également des anecdotes des personnes que vous allez croiser. Enfin, au moment J de la pratique sportive, il va falloir stimuler votre mémoire à court terme, c'est-à-dire la mémoire de travail, mais également, effectivement, ce dont je parlais à l'instant, la flexibilité et l'inhibition, qui vont nous permettre d'enchaîner correctement les différents exercices proposés par notre coach sportif. Également, l'autre intérêt de la pratique sportive, c'est que ça va nous permettre d'entretenir la qualité de nos relations sociales, soit lorsque celles-ci se font pendant l'activité sportive elle-même, mais également ça va nous permettre d'entretenir nos capacités de déambulation, c'est-à-dire de sortir pour nous rendre dans les clubs du troisième âge ou tous les autres organismes associatifs. Également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est aperçu, et ça je pense que vous le savez, c'est qu'il existe des liens étroits entre la pratique régulière d'une activité sportive et son impact sur le syndrome anxio-dépressif. Donc nous verrons tout à l'heure également, donc, comme on en parlait avec le docteur de la Doucette, le lien entre la dépression et la maladie d'Alzheimer. Également, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le sport va nous permettre au quotidien de mieux dormir. Et qui dit mieux dormir, eh bien, ça va tout simplement non seulement limiter la prescription des médicaments à l'effet potentiellement délétère, mais on verra également comment le fait tout à l'heure de mieux dormir permet justement d'améliorer et de prévenir la survenue d'une maladie d'Alzheimer. L'alimentation, eh bien, le régime plébiscité va être le régime qu'on dit méditerranéen. tout simplement parce qu'il va permettre d'apporter un certain nombre d'acides gras, les oméga-3 et notamment le DHA, qui est un constituant, en fait, l'un des principaux constituants de la membrane cellulaire neuronale. Tout à l'heure, le docteur Charlin, effectivement, a parlé de la protéine bêta-amyloïde, de la protéine tau. Et en fait, ces deux protéines vont être responsables au niveau cérébral d'un stress oxydatif et de phénomènes inflammatoires. Et ces deux éléments vont se rajouter déjà aux phénomènes inflammatoires liés au vieillissement chronique en lui-même. L'objectif donc, du régime méditerranéen va donc être apporté et ces oméga-3, mais également diverses vitamines qui vont être connues pour leur effet antioxydant et anti-inflammatoire. Donc là, je vous avais mis à titre indicatif les différentes vitamines qui sont connues pour leur effet antioxydant et anti-inflammatoire, ainsi que les aliments qui en contiennent le plus. Tout à l'heure, le docteur Charlin parlait effectivement de deux vitamines qui vont devoir être dosées à la consultation mémoire, c'est-à-dire la vitamine B9, qui va être présente dans tous les légumes à feuilles vertes, mais également la vitamine B12, qui va être contenue dans les produits d'origine animale. En effet, la carence en l'une ou l'autre de ces vitamines va être responsable d'une, ce qu'on appelle dans notre jargon, une hyperhomocystéinémie, qui va être elle-même à la base de phénomènes inflammatoires au niveau cérébral. Un article du professeur Bruno Vélas du Gérontopôle de Toulouse, quant à lui, insistait sur le fait qu'il est important que les différents antioxydants, avec les différents oméga 3 entre autres, et les vitamines soient apportés par une alimentation équilibrée et variée. En effet, son article souligne le fait que lorsque ces compléments sont apportés sous forme de compléments multipliant les antioxydants, les vitamines, eh bien, on n'observera aucun gain au niveau cognitif, si l'objectif de leur prescription n'est pas de corriger une carence sous-jacente. Actuellement, au niveau de l'INSERM de Montpellier, il y a tout un travail qui est fait autour du microbiote intestinal et des pathologies neurodégénératives. Pour l'instant, on connaissait très bien le rôle du microbiote intestinal dans tout ce qui va être régulation de l'humeur. Actuellement, les mécanismes sont plutôt autour du questionnement par rapport au lien avec la maladie d'Alzheimer. Et donc, vous allez me demander, quoi ne pas manger ? Eh bien, c'est facile. Généralement, c'est tout ce qui va être désigné sous le terme de malbouffe. Donc, tout ce qui va être riche en acides gras saturés ou polyinsaturés, c'est eux qui vont être responsables de ce qu'on appelle les plaques d'athérome, le gras qui va venir encrasser nos différentes artères, et notamment les artères qui vont mener au cerveau. Ces plaques d'athérome, on le verra en fait par la suite, vont entraîner une diminution du débit sanguin cérébral, donc des phénomènes d'hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène qui sera délétère pour le fonctionnement du cerveau. Également, au travers de l'alimentation, il sera important d'éviter tout ce qui va être produit salé, tout simplement parce que le sel va faire augmenter les problèmes de tension artérielle. Également, il faudra être rigoureux et en tout cas faire attention à ne pas privilégier la consommation de produits trop sucrés, de sucre trop rapide, car quant à eux, ils vont pouvoir avoir tendance à favoriser soit la survenue, soit le déséquilibre de problèmes comme le diabète. Également, un élément sur lequel malheureusement les citoyens vont pouvoir moins agir au quotidien, ça va être la teneur en cuivre, de leur eau de boisson. Donc également, je me permets un petit aparté qui ne correspond pas vraiment à la maladie d'Alzheimer, mais qui touche et qui se rapproche des maladies neurodégénératives. En effet, une étude entre 2020 et 2021 a été faite en Guadeloupe et a permis de mettre en évidence un lien pathologique entre la consommation d'un certain nombre d'anonacées, donc on voit là le corosol, le cœur de bœuf ou la pomme cannelle. Et en fait, il va y avoir un lien entre la consommation de ces fruits et la survenue d'une forme atypique de maladie de Parkinson, atypique par rapport à la précocité des troubles cognitifs qui y sont liés, mais également atypique par rapport à la sévérité des troubles du comportement et notamment des problèmes d'hallucination visuelle. Le seuil pathologique identifié est tout de même de la consommation de ce qu'on appelle une unité fruit. Une unité fruit, c'est soit un fruit cru, soit un jus de fruit, soit tout simplement la consommation de ces feuilles pour faire des tisanes. Donc une unité fruit tous les 5 jours pendant un an va pouvoir avoir tendance à favoriser le développement de cette maladie atypique de Parkinson. La la dégénérescence, en fait, elle va se situer donc non pas au niveau des régions temporales, mais au niveau des ganglions de la base. Et ça va s'accompagner d'une baisse du taux d'ATP intracellulaire, des dysfonctions au niveau des mitochondries. Et ça va entraîner une modification, justement, de l'organisation des microtubules dont parlait tout à l'heure le docteur Charlin, de la protéine tau, entraînant donc une tauopathie. Cet article, en tout cas, cette étude, elle se veut surtout un signal d'alerte, car en effet, la plupart du temps, ces différents fruits sont auréolés de vertus remèdes, miracles. En tout cas, souvent, on évoque leur rôle et leur implication dans la prévention du cancer, ou encore pour leurs vertus apaisantes. Il est donc en fait à craindre que notre population, ici à La Réunion, exposée à la consommation de ces mêmes fruits, puisse courir donc le même risque au niveau neuronal. C'est pour ça que je me permettais de faire un petit aparté. Le sommeil de bonne qualité, c'est-à-dire d'à peu près 7 heures par nuit, va être fondamental au processus de mémorisation. Je me permets de rassurer tout de suite les petits dormeurs. Il n'y a pas de lien, pas d'étude qui prouve l'imputabilité d'un sommeil de courte durée avec le déclenchement d'une maladie d'Alzheimer. Quels sont les mécanismes ? Eh bien, tout à l'heure, le docteur Charlin nous parlait du liquide céphalo-rachidien. En fait, pendant la nuit, il va y avoir une augmentation du débit du LCR, liquide céphalo-rachidien, au niveau du cerveau. Et cette augmentation de débit va tout simplement permettre de réaliser une sorte de grand nettoyage qui va venir emmener un peu de protéines tau, un peu de protéines bêta-amyloïdes, les deux protéines qui sont donc caractéristiques lorsqu'elles s'accumulent de la maladie d'Alzheimer. L'autre élément est tout simplement que c'est pendant la phase de sommeil que va se produire tous les processus de réorganisation des réseaux corticaux. En effet, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une réorganisation des connexions synaptiques qui va permettre de sous-tendre ce qu'on appelle la plasticité neuronale à la base de tous les phénomènes de mémorisation et de consolidation. Également, l'insomnie, donc en lien avec une mauvaise qualité de nuit, va agir de façon indirecte sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Car en effet, lorsqu'on dort mal, de façon un peu réflexe, eh bien on va avoir tendance à consommer beaucoup de sucre rapide. On parlait tout à l'heure de leur implication dans le risque de développer un diabète. Mais également, on va avoir tendance à prendre de la caféine ou de prendre des cigarettes, augmentant donc le risque de problèmes d'athérome. Et généralement, on aura tendance à mettre un peu de côté la pratique de l'activité physique, jugée alors comme trop fatigante. Également, il existe des liens, c'est-à-dire que moins on dort bien, plus on dort mal, et plus on aura tendance le lendemain, au fur et à mesure, à être un peu déprimé. Et donc, nous verrons tout à l'heure les liens donc, entre dépression et maladie d'Alzheimer. Également, lorsqu'on dort mal, eh bien, souvent, on a tendance à solliciter son médecin traitant afin qu'il nous prescrive un médicament pour nos troubles du sommeil. Et donc, on verra que malheureusement, ces médicaments utilisés dans le trouble du sommeil vont avoir un effet négatif, un effet délétère sur les fonctionnements cognitifs. Les facteurs de risque cardiovasculaire, donc il en existe un certain nombre qui sont dits non modifiables. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif de la présentation, je ne vais donc pas en parler. Par contre, je vais m'intéresser sur ce que le citoyen va pouvoir mettre en place dans son quotidien afin de limiter le risque et la survenue de ces facteurs de risque cardiovasculaire. Déjà, tout à l'heure, j'en parlais un petit peu. À l'aide d'une alimentation pauvre en sel, il va limiter le risque d'hypertension artérielle. Il va abaisser ainsi sa tension artérielle. Également, en faisant attention à ne pas trop consommer de produits sucrés, on va limiter le risque de survenue ou de déséquilibre du diabète. En adaptant la consommation d'acides gras, en privilégiant le bon cholestérol, on limitera tout ce qui va être dépôt de plaques d'athérome, comme je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont risquer d'encrasser les différentes artères, notamment celles qui vont monter au niveau du cerveau. Le problème, c'est que lorsque ces artères sont encrassées, le sang circule moins facilement, l'oxygène arrive moins facilement, et donc les neurones vont avoir tendance à être particulièrement impactés par cette carence en oxygène. Donc on voit donc tout simplement déjà comment, avec une alimentation adaptée, la pratique régulière du sport et avec un sommeil de bonne qualité, on va non seulement pouvoir agir et sur les facteurs de risque cardiovasculaire, donc prévenir son cœur et les problèmes artériels divers, mais également comment on va pouvoir limiter le risque de survenue de maladies démentielles, qu'il s'agisse de la maladie d'Alzheimer, comme on vient de voir, ou de la démence vasculaire dont parlait tout à l'heure le docteur Charlin. Le syndrome d'apnée du sommeil, c'est en fait une maladie qui va se traduire par la survenue de pauses ou d'apnées qui vont survenir pendant que l'on dort. Et donc ces apnées, forcément, elles vont s'accompagner encore une fois d'une diminution de l'oxygène qui va être apporté à notre cerveau et donc de phénomènes inflammatoires. Donc en fait, le SAS, le syndrome d'apnée du sommeil, va avoir vraiment différents liens, différentes interactions avec la maladie d'Alzheimer. Donc comme on vient de voir à l'instant avec la problématique de l'hypoxie, le manque d'oxygène qui va aller atteindre les zones du cerveau précocement atteintes dans la maladie d'Alzheimer. Un autre mécanisme, c'est tout simplement que ce syndrome d'apnée du sommeil va avoir tendance à augmenter tout ce qui va être facteur de risque cardiovasculaire. En effet, le SAS augmente la tension, entraîne des troubles de l'équilibre du diabète et va avoir tendance à favoriser tout ce qui va être problème d'obésité et de surpoids. L'objectif donc va être de dépister précocement l'existence potentielle d'un syndrome d'apnée du sommeil de façon à permettre éventuellement, si le diagnostic est confirmé, de mettre en place un appareillage adapté qui va donc et protéger nos neurones et bien sûr protéger notre cœur. La dépression, tout à l'heure le docteur de la Doucette a fait une belle présentation de tout ce qui va être dépression et ses liens avec la maladie d'Alzheimer. En effet, la dépression va avoir tendance à retentir de façon directe et indirecte avec cette maladie par les symptômes qu'elle va engendrer sur le patient. En effet, qui dit dépression dit souvent tristesse de l'humeur, dit perte d'intérêt pour les activités habituellement jugées attrayantes, en tout cas par le passé, pour la personne. Il en résulte donc une diminution de la stimulation cognitive et une diminution de la qualité des relations sociales. Également, la tristesse va s'accompagner souvent de ruminations anxieuses et donc de troubles du sommeil. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'importance d'un sommeil de bonne qualité et nous verrons un petit peu plus tard les risques liés à la prescription de médicaments inadaptés, généralement donnés dans le cadre de troubles du sommeil. Également, donc, il faut savoir que la maladie dépressive va s'accompagner d'une modification du fonctionnement cognitif. En effet, il va y avoir plus de difficultés au niveau du maintien attentionnel, des difficultés de concentration, des troubles au niveau de la mémoire immédiate et de la mémoire différée. Il y aura également un retentissement au niveau de tout ce qui va être capacité de planification et de toutes les autres fonctions exécutives qui vont nous permettre au quotidien de nous adapter à notre environnement. Depuis les années 2000, il y a en fait plusieurs hypothèses qui ont permis justement de relier la maladie d'Alzheimer et la dépression. La première était qu'il existait peut-être probablement des facteurs de risque communs et à la dépression et à la maladie d'Alzheimer. Par la suite, comme le disait le docteur de la Doucette, eh bien, souvent la dépression va pouvoir être une des premières manifestations, une des premières réactions du patient lorsqu'il va commencer à constater des difficultés cognitives. Et la troisième hypothèse qui avait été évoquée est effectivement un lien de causalité entre la dépression et la maladie d'Alzheimer. Au niveau des médicaments, eh bien, cela va également faire l'objet de toute l'attention du médecin de la consultation mémoire. Il va questionner la personne qui se présente autour des médicaments pris au long cours, mais également les médicaments pris de façon plus ponctuelle. Car en effet, un certain nombre des médicaments vont être responsables d'une modification des fonctionnements cognitifs avec plus de troubles attentionnels, des troubles dans la mémoire immédiate, dans la mémoire différée. À ce jour, aucune étude pour l'instant n'a permis de prouver une imputabilité directe de ces médicaments dans la maladie d'Alzheimer. Par contre, même s'ils ne sont pas directement responsables de cette maladie, il nous semble tout de même beaucoup plus prudent d'essayer de limiter au maximum leur consommation du fait des risques sur le fonctionnement cognitif. Les principaux médicaments impliqués sont donc les benzodiazépines et les composés Z, tout ce qui va être utilisé pour dormir. En plus de l'effet dont j'ai parlé tout à l'heure, le risque va être généralement de diminuer la stimulation cognitive et de diminuer la qualité des relations sociales. Les autres médicaments qui vont pouvoir être responsables va être ce qu'on appelle les antihistaminiques. Le chef de file, c'est l'Atarax qui va être utilisé pour la grattelle, ainsi que d'autres médicaments dits antidépresseurs tricycliques. Tout simplement parce que ces médicaments, ce sont des médicaments qui ont un effet anticholinergique. Ils vont abaisser le taux d'acétylcholine au niveau cérébral. Et tout à l'heure, donc, le docteur Charlin parlait de ces médicaments, les IACE, inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, qui vont avoir pour objectif, au contraire, de faire monter ce taux d'acétylcholine au niveau cérébral. D'autres médicaments vont être impliqués, notamment des psychotropes et les neuroleptiques. Lorsqu'en tout cas la prescription de ces médicaments, et je parle surtout des benzodiazépines ou des somnifères, vont être questionnés, ou en tout cas lorsque leur prescription va être demandée auprès du médecin traitant lorsqu'il s'agit de problèmes de stress, de problèmes de troubles du sommeil, eh bien, il vaudra mieux encourager le médecin traitant à proposer des stratégies dites non médicamenteuses, le yoga, la relaxation, la cohérence cardiaque ou même la consommation de certaines tisanes. Par contre, en vous méfiant bien sûr de la consommation des anonacées dont je vous parlais tout à l'heure. La réserve cognitive, eh bien, tout se passe en fait comme s'il existait une sorte de seuil en deçà duquel eh bien, justement, les premiers signes cliniques de la maladie d'Alzheimer vont apparaître. L'objectif, au travers de toute la stimulation cognitive dont on va pouvoir se prévaloir tout au long de notre vie, va être au contraire d'augmenter au maximum le fonctionnement cognitif pour atteindre un seuil le plus important possible. L'objectif est de créer un gap le plus important possible entre le niveau atteint par les fonctions cognitives et le seuil où va se déclencher la maladie d'Alzheimer. Ça va vraiment être ça qui va être important. Donc les différentes études qui se sont intéressées justement à comment stimuler tout au long de notre vie cette réserve cognitive ont permis de mettre en évidence différentes choses. Tout d'abord, le niveau socio-éducatif acquis via l'éducation. En effet, avec les études, on s'aperçoit que le fait d'avoir le certificat d'études permet déjà de repousser, de retarder d'au moins 4 à 5 ans le début de survenue de la maladie d'Alzheimer. Également le statut marital. En effet, le fait de vivre seul ou d'être célibataire va augmenter de 50% le risque de développer une maladie d'Alzheimer. Il en est de même d'un réseau social et amical de faible qualité qui risque d'augmenter le risque de développer cette maladie. Au contraire, ce qui va être bénéfique, ça va être toute la stimulation intellectuelle acquise au travers de votre activité professionnelle. Donc, comme on le voit, l'objectif de la réserve cognitive, c'est d'upgrader au maximum nos capacités de façon à ce que si un jour la maladie d'Alzheimer doit apparaître, eh bien, le laps de temps avant franchissement du seuil soit le plus long possible. Donc, la réserve cognitive dont je viens de parler, c'est en fait tout ce qu'on va devoir mettre en place tout au long de notre vie, depuis qu'on est petit. La stimulation cognitive, elle, va être ce qui correspond à ce qui va être mis dans le présent et dans le futur, justement, afin de continuer d'entretenir, d'enrichir, de faire fructifier encore cette réserve cognitive lorsqu'on a atteint un certain âge. Cette stimulation cognitive, elle va pouvoir se faire de diverses façons, et de façon seule ou de façon accompagnée. En effet, les études, elles montrent que la pratique de la lecture, la pratique de l'activité physique régulière vont permettre de réduire de 25% le risque de développer une démence à 15 ans, ce qui n'est pas négligeable. On parlera aussi de tout ce qui va être l'entraînement cognitif, plus ou moins informatisé, qui va permettre de stimuler la mémoire de travail, tout ce qui va être les capacités d'inhibition, la flexibilité. Et ça, il va y avoir un effet qui va pouvoir être pérenne dans le temps. Également, il y a d'autres activités pour lesquelles on ne se dit pas forcément « tiens, ça va faire stimuler mon cerveau ». Par exemple, le jardinage, le bricolage, l'entretien des relations amicales et sociales, ou encore tout simplement la préparation des voyages. À l'aide d'une orthophoniste, l'objectif va être surtout d'essayer de réhabiliter en fait les fonctions cognitives qui peuvent être encore restaurées, sinon essayer de développer des stratégies compensatrices ou malheureusement, lorsque la maladie s'est installée, d'essayer de pallier aux différents handicaps qui vont apparaître au fur et à mesure de la maladie. Donc, comme je vous dis, tout ça va permettre de continuer de faire fructifier et d'entretenir la réserve cognitive. De plus en plus, cette stimulation cognitive ne doit pas être seule. Elle doit vraiment, au contraire, s'intégrer dans une prise en charge vraiment beaucoup plus globale. Et c'est ce qu'on appelle la stimulation multidomaine. Cette stimulation multidomaine, c'est ce qui est proposé justement dans les centres de prévention par rapport à ces maladies. Et ça va permettre d'associer des ateliers de stimulation cognitive, des ateliers de pratique sportive et des ateliers avec des professionnels autour de la prévention et de la correction des facteurs de risque cardiovasculaire. Également, il y aura à cette occasion justement des activités sociales qui permettront justement d'optimiser un petit peu tous les facteurs de prévention dont je vous parle. Différentes études, je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler, oui, non ? Non, pas trop, j'en parle pas. Juste rapidement, je dis simplement qu'il y a certaines études qui ont donc permis de tester cette stimulation multidomaine sur des personnes de plus de 70 ans exemptes de pathologies démentielles. Et en fait, ils s'aperçoivent que cette stimulation multidomaine proposée pendant 5 ans va vraiment permettre d'avoir un effet significatif en termes d'amélioration du fonctionnement cognitif global et de la vitesse de traitement des informations. Bien évidemment, pour que tout ce dont je viens de vous parler puisse être mis en place correctement, il faudra s'être assuré de l'absence de handicap visuel ou auditif qui risque de perturber la qualité des interactions.
Ah, ils sont bien, nos intervenants. Franchement, on a des intervenants au top.